toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Juliette Gadeau, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Alezard, Samuel Bernard, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par David Federman. Dernière émission consacrée aux médias, nous allons parler ce matin des médias alternatifs, ceux qui permettent aux extrémistes de porter leur vision du monde et leurs projets politiques, de l'alt-right américaine à la fachosphère française, quand l'extrême droite s'empare du web.
Also wenn Bundestagsabgeordnete und Medienleute hierher kommen, dann sehen sie immer dehydrierte und ausgekühlte.
Quand les membres du Parlement allemand ou des médias de masse arrivent ici, ils voient des gens épuisés. Alors que regardez, j'y vois des gens en balade, en voyage ou en séjour touristique, disant nous cherchons une vie meilleure en Europe.
In Europa.
Écoutez-moi le con, fumier.
Ces journalistes, vous êtes avec eux. Vous êtes arabisés. Vous êtes dans l'islamisme. Pareil. Vous êtes tous des prédés.
Mais peu importe ce que Clinton nous dit, il y a également toutes les autres affaires. Pour moi, c'est juste intolérable, c'est même déplorable. C'est un tissu de mensonges. Les médias, les leaders politiques, bref, tous ces gens qui sont dans le système nous poussent à prendre pour vrai des choses qui sont en réalité erronées.
Lugan Press lançait ses supporters de Trump à l'adresse de journalistes venus couvrir le meeting de leur champion. Lugan Press, un mot allemand signifiant presse mensongère, presse à bobard, très populaire dans l'opinion allemande au moment de la montée en puissance du nazisme en Allemagne. Et voilà qu'il revient à la mode du côté des États-Unis. Des États-Unis à l'Allemagne, en passant par la France, on l'entendait. La défiance à l'égard des journalistes est forte et se propage. Accusés de mentir aux gens, les médias traditionnels sont sous le feu des critiques. Ces détracteurs étant de plus en plus attirés par d'autres sources d'informations, d'autres type de médias qui proposent une autre version de la réalité, une autre version du monde. Que ce soit des sites comme F de Souche en France, Breitbart.com aux États-Unis ou encore Sputnik News, l'objectif est toujours le même, réinformer, redonner une place aux opinions minoritaires qui, avec les médias de masse, ont disparu. Côté des États-Unis, justement, cette critique des médias est particulièrement puissante dans la bouche de Donald Trump et de ses soutiens. D'ailleurs, depuis quelques jours, justement, la presse américaine émet l'hypothèse qu'en cas de défaite, le milliardaire pourrait être tenté de construire un empire médiatique d'extrême droite qui s'appuierait sur la dynamique suscitée par sa candidature. Une hypothèse nourrie par la nomination récente de Stephen Bannon à la tête de sa campagne. Bannon étant un agitateur influent, proche du Tea Party et président exécutif de Breitbart News Network, un média politique très, très conservateur. Quoi qu'il en soit, et au-delà du seul cas américain, comment comprendre l'émergence de ces médias alternatifs à la droite, voire même à l'extrême droite de l'échiquier politique? La défiance à l'égard des journalistes suffit-elle à l'expliquer? Comment l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont-ils accompagné, soutenu leur développement? À qui s'adressent ces autres médias et quels effets produisent-ils sur ces cibles? Sont-ils le signe qu'on est passé dans l'ère de la post-vérité, pour reprendre le titre de l'ouvrage de l'américain Ralph Case il y a quelques années maintenant? Pour évoquer toutes ces questions avec nous en duplex depuis Toulouse, on a invité Françoise Coste. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, vous êtes une spécialiste des États-Unis et en particulier de la droite américaine et du Parti républicain. Et puis je mentionne pour les auditeurs que vous êtes l'auteur de cet ouvrage paru l'année dernière, Reagan, qui avait d'ailleurs été récompensé par le Grand Prix de la biographie politique. Peut-être d'ailleurs qu'on fera référence à un moment dans cette émission justement à Reagan. Les parallèles ont été récurrents entre Reagan et Donald Trump. D'abord, Françoise Coste, si vous le voulez bien, commençons par l'actualité. Hier, on apprenait via des emails publiés par WikiLeaks qu'Hillary Clinton avait reçu en avance des questions qui lui ont été posées lors du débat de la primaire démocrate, confirmant ainsi des accusations lancées par Donald Trump depuis longtemps sans qu'il ne puisse en apporter la preuve. Ces emails ont été rendus publics, ils proviennent de l'actuelle présidente intérimaire du Parti démocrate démocrate qui est Donna Brazile et s'adresse à John Podesta, qui est le président de la campagne de Madame Trump, et Jennifer Palmieri, qui est sa directrice de la communication. Ça fait des mois, Françoise Coste, que Donald Trump répète que sa rivale a été avantagée durant la campagne des primaires, face à son principal concurrent Bernie Sanders, notamment en bénéficiant à l'avance des questions des débats. C'est une mauvaise nouvelle évidemment pour Hillary Clinton, mais c'est aussi peut-être une très mauvaise nouvelle pour les médias américains dont Trump répète à l'envi qu'il favorise sa rivale. En tout cas, cette affaire en est l'illustration et ne va pas améliorer leur image auprès des soutiens du Républicain qui conspuent très régulièrement les médias, disons, traditionnels, Françoise Coste.
Ah oui, c'est vraiment catastrophique parce que ça confirme tout ce que Trump et ses supporters ont dit, en particulier sur le fait qu'il y a un establishment aux États-Unis qui a trois branches principales, les deux partis, le Parti démocrate, le Parti républicain, et les médias traditionnels, on va dire mainstream, littéralement mainstream, c'est-à-dire dans le courant principal. Et ça, c'est l'accusation de Trump, c'est un peu ce qui a fait sa force, sa légitimité. Lui, il serait seul contre tous, contre cet establishment, et ça, ça vient, une semaine avant l'élection, confirmer l'existence qu'il y a des passerelles très fortes, des complicités, on pourrait dire, entre le leadership du Parti démocrate et, dans ce cas-là, CNN, je crois.
Il y a quelques jours, il y a une journaliste du site d'information BuzzFeed qui a été prise à partie par des partisans de Trump lors d'un de ses meetings. On l'entendait tout à l'heure en introduction de cette émission. Lugan Press disait donc les supporters de Trump à l'adresse d'un certain nombre de journalistes qui étaient venus ici pour couvrir l'événement. C'est donc cette presse à bobards, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque dans l'opinion allemande au moment de la montée en puissance du nazisme. C'est assez étonnant, incroyable de le voir comme ça réémerger du côté des États-Unis. On avait déjà vu une telle véhémence dans une campagne présidentielle à l'égard des journalistes, à l'égard des médias. Ça vous semble inédit ?
C'est à ce stade, oui. Il y a déjà eu des signes avant-coureurs. Par exemple, en 2008, Sarah Palin, qui était candidate à la vice-présidence sur le ticket républicain, avait elle aussi conspué les médias et les appelait, les, toujours pour venir à cette idée de mainstream media, de lame-stream media. Lame, ça veut dire nul. Donc, l'idée de... C'est un peu la paranoïa contre les médias traditionnels qui est, elle, qui court tout au long de l'histoire de la droite radicale américaine. Ça fait très longtemps que les historiens ont vu ça, mais c'est vrai que là, je pense que c'est lié à au foisonnement médiatique permis par l'ère numérique qui rend cette tradition encore plus percutante et qui, comme vous l'avez dit, la légitime un peu.
Alors, on va voir effectivement comment les Internet, finalement, a accentué cette tendance-là. Mais je vais vous poser une question extrêmement naïve, Françoise Coste. Comment expliquer que les partisans de Trump soient aussi violents à l'égard des journalistes américains ? Finalement, qu'est-ce qu'ils leur reprochent ?
Ils leur reprochent...
les questions naïves appellent parfois des réponses difficiles. Hein.
Un élément fondamental pour comprendre la droite radicale, la droite, l'alt-right dont vous avez parlé dans votre introduction, c'est le complotisme, les théories du complot, c'est-à-dire on nous cache tout. Et la principale institution responsable du fait qu'on cache ce qui se passe dans la vraie vie, c'est les médias. Donc voilà, les médias, c'est des menteurs. Ils connaissent la réalité, mais ils la manipulent. Par exemple, ils mentent sur, alors dans le cas de Trump, l'immigration mexicaine, l'immigration musulmane, l'entrée des migrants aux États-Unis. Ils protègent Hillary Clinton, c'est-à-dire par rapport... Et c'est là que Wikileaks, qui a été au début très célébré en France et en Europe, est en train de devenir un allié objectif de Trump, via la Russie. Donc ça, c'est aussi... On pourrait y revenir. Mais bon, donc c'est grâce à ces médias alternatifs comme Wikileaks qu'enfin on peut découvrir la réalité de ce qu'est Hillary Clinton, qui est corrompue, qui est menteuse, qui est vendue à Wall Street. Voilà, c'est cette conviction...
Mais c'est Wikileaks qui a changé ou c'est notre vision sur ce qu'il révèle finalement ? Parce qu'à l'époque, effectivement, on disait, voilà, c'est l'ère de la transparence est enfin ouverte et beaucoup s'en félicitaient plutôt.
Oui. Et surtout que cette ère de la transparence, elle était, tout au début, rappelez-vous, elle était le fruit d'une collaboration intéressante entre Wikileaks et des journaux établis. Le Monde, le Guardian, le New York Times. L'idée fondatrice était de prêcher la transparence contre tous les pouvoirs. Là, la différence, c'est que Wikileaks agit seul et dans un but idéologique bien précis, car Wikileaks ne s'en prend finalement que à Hillary Clinton. Alors qu'on pourrait imaginer que Trump a aussi pas mal de casseroles. Ça, là, on ne les voit pas.
Est-ce que vous iriez, Françoise Coste, jusqu'à dire que chez les partisans de Trump, on a un certain nombre de complotistes, de conspirationnistes, ou est-ce que c'est quand même relativement marginal ? Peut-être qu'il y en a,
non,
mais c'est... non, c'est pas marginal.
C'est constitutif du mouvement, mais c'est constitutif vraiment, là aussi ça revient très 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 loin dans l'histoire américaine, il y a toujours eu une droite radicale. On dit plutôt droite radicale que d'extrême droite aux États-Unis, les historiens préfèrent le terme droite radicale. Et cette droite radicale, elle a toujours été... définie par le complotisme. Par exemple, on peut revenir au 19e siècle où il y avait la conviction dans ces groupes-là qu'il y avait un complot des francs-maçons, par exemple, contre les institutions américaines. Donc il y a eu un grand mouvement anti-maçonnique au 19e. Pendant la guerre froide, aussi au 20e siècle, il y a eu ce qui a défini la droite radicale, c'était l'anticommunisme et la conviction. Alors c'était le maccartisme, si vous voulez, exacerbé, la conviction que il y avait des communistes partout, mais même au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire, par exemple, un des plus grands groupes de droite radicale des années 50-60, c'était la John Birch Society, et la John Birch Society était convaincue que le président Eisenhower, son frère Milton Eisenhower, le directeur de la CIA et le ministre des Affaires de la Défense étaient tous des agents de Moscou. Donc le complot soviétique allait tout en haut de l'État. Voilà, ça a toujours existé.
Et vous voulez dire que cette paranoïa, finalement, la peur des communistes d'hier a été remplacée par la peur des musulmans, la peur des immigrés mexicains, etc.
Exactement. On s'adapte à chaque époque, puisque bien entendu aujourd'hui l'anticommunisme ne fait plus recette. Et encore, si on regarde comment le Tea Party a traité Obama pendant le débat d'Obamacare, on pourrait y revenir, puisque les accusations de communisme ont fusé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ennemi, donc l'ennemi de l'intérieur, c'est vraiment la clé aussi, c'est les immigrés, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient bien entendu mexicains. Et là, on retourne vers la base du succès de Trump.
Ouais, donc on voit finalement que finalement il existe aux États-Unis, disons, une ancienne tradition paranoïaque dans les médias. Il y a notamment, je crois, un grand historien américain qui s'appelle Richard Hofstadter, oui, qui avait évoqué cette question-là dans un ouvrage qui a d'ailleurs été traduit en France, Le style paranoïaque, théorie du complot et droite radicale en Amérique. C'est quelque chose de très ancien en réalité.
Oui. Oui. C'est rien de nouveau, c'est juste modernisé.
Et quel était justement le support de cette paranoïa à l'époque ? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup effectivement les sites alternatifs qu'on va trouver sur Internet, on va en reparler évidemment, mais à l'époque, c'était quoi ?
Alors à l'époque, c'était surtout des newsletters, des petites lettres d'information qu'on se distribuait sous le manteau, ou par exemple, ces groupes-là réussissaient à récolter les adresses des donateurs au Parti républicain. En particulier, par exemple, en 1964, où le Parti républicain a nommé un candidat très conservateur, Barry Goldwater, ces leaders-là, ces groupes-là pouvaient récupérer, puisqu'aux États-Unis, quand on donne de l'argent à un parti, la liste est publique. Donc on récupère le nom des donateurs et puis on leur écrit. Et justement, on flatte leur peur. On leur dit « Madame X, Monsieur Y, les communistes arrivent, ils nous espionnent avec des satellites, les médias n'osent pas nous le dire parce qu'eux aussi sont à la solde de Moscou, nous seuls savons la vérité, donnez-nous de l'argent ». Abonnez-vous à notre petit magazine, envoyez-nous de l'argent et nous, on va lutter pour l'Amérique. Voilà. Alors, c'était assez clandestin et bien entendu, ça a pris une immense ampleur quand est arrivé l'Internet.
Alors, justement, ça, c'est une vraie question parce qu'à l'époque que vous décrivez, à l'époque de la guerre froide, disons, cette frange radicale, je mets des guillemets, avait finalement assez peu de médias alternatifs vers lesquels se tourner pour nourrir leur radicalité. Il y avait ces quelques lettres, mais finalement, c'était relativement marginal. Aujourd'hui, en revanche, avec Internet, c'est très facile d'aller s'abreuver sur des sites extrémistes. Alors, comment la démocratisation d'Internet, justement, a-t-elle modifié le rapport des citoyens à cette information alternative? Et est-ce que, disons, la facilité de leur accès a augmenté la part de cette frange radicale par rapport à l'ensemble de la société américaine?
Oui. Là aussi, on a été un peu naïf, je crois. C'est comme Wikileaks. Quand l'Internet est arrivé, il y a eu des essais, des historiens, des sociologues qui ont écrit tellement, surtout aux États-Unis, sur la démocratisation des médias et comment tout le monde pouvait devenir journaliste, par exemple. Et là, on voit que oui, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Donc, cette démocratisation, elle a amené à plus de sites qui attire plus de monde qui peut se... On peut devenir créateur de sites, par un blog par exemple, ou comme vous l'avez dit, s'abreuver à ces sites en tant que lecteur. Mais même comme c'est des sites participatifs, même si on est lecteur, on laisse des commentaires, et puis voilà, ça fait boule de neige. Donc c'est des communautés gigantesques finalement, par rapport à la radicalité de leurs idées, et qui c'est un, comment dire, c'est un effet boule de neige parce que on s'encourage les uns les autres. Et on arrive à un stade où, ça aussi, ça a été bien étudié aux États-Unis, en fait, on n'est plus dans l'ère du média, dans le sens où on va dans un média pour s'informer. C'est-à-dire s'informer littéralement, découvrir de nouvelles informations, de nouvelles données pour comprendre le monde. Non, on va dans des médias pour confirmer ce que l'on pense déjà. C'est-à-dire qu'on ne va plus, on ne va plus lire, encore moins qu'avant, la presse généraliste. On ne va plus regarder à la télé les grandes chaînes nationales. On ne va lire sur en ligne que des sites qui
confirme nos opinions déjà forgées. Voilà.
Et qui, le terme que les Américains utilisent, c'est la chambre d'écho. C'est-à-dire qu'on va, on est ensemble dans notre petite communauté et on se nourrit les uns les autres de notre paranoïa. On n'apprend rien de nouveau, mais on est rassuré et conforté dans nos convictions.
On reviendra évidemment sur ces sites et sur la manière aussi peut-être dont Trump et son équipe de campagne utilisent justement ces sites et bien sûr les auditeurs, les internautes qui s'abreuvent justement à ces sites-là. Depuis quelques jours, Françoise Coste, il y a des rumeurs qui se répandent dans les médias américains. Trump pourrait avoir l'envie de capitaliser sur le mouvement qu'il a suscité pour lancer un empire médiatique d'extrême droite, ou de droite radicale, pour reprendre plutôt l'expression consacrée du côté des États-Unis. C'est une hypothèse qui part de la nomination de Stephen Bannon, qui est à la tête donc de sa campagne désormais. Il est le directeur de Breitbart, qui est un influent site d'extrême droite, ou plutôt de droite radicale, utilisons les bons mots, en tout cas, disons un site hostile, direct et décomplexé, on va le dire comme ça. Est-ce que cette hypothèse de l'émergence d'un nouveau groupe de médias qui émergerait sur la vague du phénomène Trump, disons-le comme ça. Est-ce que ça vous paraît possible? Il faut s'y attendre?
Oui, oui. Et là aussi, disons que tout est relatif. Comme pour la droite alternative, le Parti républicain n'est pas assez conservateur, alors qu'il est énormément, mais il n'est pas assez conservateur. Eh bien, pour ces gens de la droite alternative, des chaînes comme Fox News, qui, elles, nous paraissent tellement à droite, tellement conservatrice, eh bien, ça non plus, ce n'est pas assez radical. On n'est jamais assez à droite pour cette mouvance-là. Donc, certains se demandent, et la question est pertinente, si en fait, d'emblée, Donald Trump, il n'a jamais voulu devenir président. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre son apparente désinvolture, le fait qu'il n'apprend rien, enfin même, ça fait un an et demi qu'il est en campagne, il ne semble pas avoir même, pendant cette année et demie, découvert des choses, appris des choses. Il n'a pas bûché les dossiers. Donc, son but, c'est pas le pouvoir. À l'évidence, ça ne l'intéresse pas. C'est, en tant que businessman, créer un nouveau business, faire de l'argent. Et ça, vu les gens qu'il a autour de lui, l'hypothèse devient crédible. Parce que, effectivement, son directeur de campagne vient de Breitbart, donc est un homme des médias. Et la seconde personne la plus importante dans la campagne, c'est Jared Kushner, qui est son beau-fils, le mari de sa fille. Et Jared Kushner de plus en plus de gens le confirment, lui aussi compiler une liste de 14 millions de noms. C'est-à-dire, si vous allez sur le site de Trump et que vous laissez un message ou que vous donnez de l'argent, le site enregistre votre adresse et donc il y a une base de données de 14 millions de fans de Trump. Jared Kushner est en train, dirait-on, de consulter des spécialistes des médias pour voir si on peut transformer cette liste de donateurs en base pour lancer un nouvel empire médiatique. Sans doute initialement sur Internet, depuis quelques jours aussi, la campagne, si vous allez sur le site, il y a des petits films de campagne qui sont qui s'appellent Trump TV, je crois, ou Trump News, qui pourraient être un essai de quelque chose qui serait plus grand. Donc, peut-être une chaîne Internet, puis une chaîne à la demande, peut-être un jour une chaîne du câble, pour remplacer Fox News, quelque part, en tant que média principal pour ces gens de droite radicale.
Françoise Coste, on dit aujourd'hui que finalement, Breitbart.com, c'est devenu peut-être la principale vitrine de cette alt-right, de cette autre droite. Alors d'abord, il faut peut-être donner quelques éléments pour comprendre ce qu'est l'alt-right. Et finalement, pourquoi ce site, Breitbart.com, a-t-il décidé de soutenir Trump? Ce qui revient finalement à se demander pourquoi Trump est devenu le candidat de cette autre droite. La question est un peu liée, bien sûr.
Oui. Alors, Breitbart.com, d'abord, c'est un site comment dire, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est entertaining. Vous y allez, c'est un peu comme Fox News quand ça a commencé. Il y a des couleurs frappantes, c'est spirituel, c'est la droite décomplexée, mais une droite, quelque part, douée dans la punchy, dans la communication. Donc, déjà, on s'amuse en lisant ça. C'est beaucoup moins austère que de lire le New York Times ou le Washington Post. Il y a ça. Et on en revient à que la droite, donc elle s'appelle alternative, parce que c'est une alternative au Parti républicain. On en revient à l'idée que je disais tout à l'heure, que le Parti républicain, c'est l'establishment. Les idées de la droite radicale, pour ces gens-là, ne seront jamais mises en pratique par le Parti républicain. Donc il faut construire autre chose. Et cette autre chose, ça a été Trump. C'est l'image de Trump qui est outsider, donc ça plaît, puisqu'il n'est pas une créature du parti. Encore aujourd'hui, il n'est même pas membre du Parti républicain. On l'oublie, mais bon. Et puis, Trump, même avant qu'il se lance en politique, est lui aussi de nature très complotiste. Et là, c'est le pont est facile, parce que Trump, il est depuis les années 80 une célébrité. Il a eu son émission dans les années 90, les années 2000, il a eu son émission sur NBC, mais c'était lui aussi un entertainer. Il était dans le monde du showbiz. Quand il a basculé en politique, c'est quand il est devenu, après l'élection présidentielle de Barack Obama, le principal porte-parole des birthers, c'est-à-dire les gens qui disaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, qu'il était né au Kenya. Mmh. Et que ça aussi, c'était un complot. Et que c'était... on n'a jamais compris qui était derrière le complot, hein, mais des gens qui étaient anticolonialistes, anti-hommes blancs, qui depuis le Kenya avaient fabriqué ce Barack Obama pour l'envoyer aux États-Unis, démanteler le way of life des États-Unis et des institutions américaines. Trump, ça a été lui qui a financé le mouvement et qui a été son porte-parole médiatique le plus présent. Ouais. Il a dit qu'il avait envoyé de sa propre poche des détectives privés au Kenya, à Hawaï, où Obama est effectivement né, pour prouver qu'il y avait eu dans l'état civil d'Hawaï des manipulations et des fraudes dans les années 60 quand Barack Obama est né. Donc, c'est lui qui a vraiment... Parce que si cette théorie du complot était restée dans les sites de la droite radicale, cette théorie peut-être n'aurait pas été aussi populaire. Mais Donald Trump, il a rendu... il était pratiquement tous les matins dans le télématin de Fox News, par téléphone, pour mettre à jour, donner des informations au jour le jour sur le progrès de sa pseudo-enquête. Et ça, il a fait basculer cette théorie du complot de la droite radicale vers... le mainstream, la conversation générale de tout le monde.
Juste, et puis on va revenir sur l'alt-right pour un petit peu approfondir et comprendre mieux ce mouvement-là, mais quand même, je reviens sur Breitbart.com. J'ai dit tout à l'heure que c'était devenu la vitrine médiatique de l'alt-right. Si c'est le cas, ça veut aussi dire que cette frange de la droite radicale américaine n'avait jusqu'ici pas de relais dans les médias américains traditionnels ?
Oui. C'est ça, c'était, pour le coup, c'était vraiment... la frange, littéralement, parce que elle était, disons que le Parti républicain a toujours eu une relation un peu compliquée avec cette droite-là. Parce que on a besoin de ses votes. On a besoin des dons de ses supporters. Mais on veut pas trop être vu en public avec ces gens-là, quoi. Donc, c'est le cousin un peu embarrassant de la famille.
D'accord.
Et là, ces liaisons dangereuses, quelque part, le Parti républicain a joué avec le feu. Et maintenant, il doit accepter que le cousin un peu embarrassant, ben, il est venu à la table des grands.
Je reviens donc sur cette question de l'alt-right et finalement de sa définition, parce que je parle sous votre contrôle, vous êtes historienne, vous connaissez très bien cette histoire de la droite américaine. Je crois qu'elle renvoie à un courant, disons, réactionnaire du Parti républicain et surtout à cette querelle qui remonte à la candidature du candidat républicain Barry Goldwater, dont vous parliez tout à l'heure en 1964, et sa défaite d'ailleurs à l'élection avait provoqué donc cette division au sein du parti, provoquant, disons, une scission entre ce qu'on définit comme étant des paléo-conservateurs et puis les néo-conservateurs. Finalement, quelle différence politique, idéologique entre les néo-cons et ces paléo-conservateurs qui sont justement le ferment de cette alt-right ?
Ça, c'est une ligne de fracture capitale, hein, pour comprendre effectivement le mouvement. Les néo-conservateurs, alors dans cette querelle-là, la question principale, c'est la politique étrangère. Là, c'est vraiment le focus de ces intellectuels-là. Pour les néo-conservateurs, les États-Unis doivent être interventionnistes. d'où la guerre en Irak par exemple, c'est-à-dire doivent intervenir militairement partout dans le monde, plutôt de manière unilatérale, s'il n'y a pas d'alliés, ce n'est pas très grave, avec comme but ultime de propager la liberté et la démocratie. C'était ça, intellectuellement, la guerre en Irak. Bon, ça a été un désastre, mais intellectuellement, c'était ça. Pour les paléoconservateurs, qui ont été pendant très longtemps, se sont retrouvés aux États-Unis derrière Pat Buchanan, qui est en fait une figure, lui, qui fait le lien aussi entre l'alt-right et la droite normale, si on veut dire, puisque Buchanan a été, par exemple, conseiller de Nixon et de Reagan. Donc, il était quand même dans les couloirs du pouvoir. Mais lui aussi, c'est un essayiste, il a beaucoup écrit, il avait un talk show, parce que la radio, les talk shows de la radio conservatrice, ça aussi, ça a été longtemps, avant l'Internet, ça a été aussi une façon médiatiquement d'occuper le terrain, pour la droite radicale. Et lui, il est paléoconservateur parce qu'il est isolationniste. C'est ça la définition des paléoconservateurs, c'est-à-dire revenir à une Amérique d'avant la Seconde Guerre mondiale où on n'intervient pas, on laisse le reste du monde se débrouiller. Et on reste à la maison, ce qui nous permet d'éviter d'avoir des GIs qui meurent, d'avoir des interventions qui durent depuis 50, 60, 70 ans, vu le nombre de soldats qu'il y a encore en Allemagne ou au Japon. Et puis surtout, ça permet d'économiser de l'argent. De l'argent que si on ne le dépense pas en Allemagne, au Japon ou au Moyen-Orient, on peut le dépenser chez nous à la maison pour aider nos propres gens. Par exemple, construire un mur et reconstruire, avec la frontière du Mexique, et reconstruire des usines pour donner des jobs à la classe ouvrière blanche.
Et puis peut-être pour en finir avec cette affaire-là, cette division-là, faut peut-être redire aussi que l'élection de Reagan en 1981, finalement, elle signe l'ascendance des néocons sur les paléoconservateurs. Et finalement, Trump signe, lui, le retour et peut-être la vengeance de cette autre droite.
Oui. Ouais. Parce que ce qui est le plus frappant par rapport à nous, hein, sur le plan de la politique étrangère, chez la candidature Trump, c'est que Trump, c'est la fin de l'OTAN. Trump, c'est la fin des institutions internationales nées de la Seconde Guerre mondiale. De la Pax Americana, si on veut. Trump dit, l'OTAN, ça coûte trop cher. Pourquoi c'est nous qui payons pour la sécurité de l'Europe, du Moyen-Orient ou des Japonais? Ces gens-là devraient s'occuper eux-mêmes de leur propre sécurité. Et ça, c'est si ça devait, ça, c'est un vieux thème hein, de l'alt-right. Si Trump était élu et que cela devenait la politique officielle des États-Unis, les bouleversements mondiaux seraient inimaginables.
Avant de retrouver dans quelques instants une nouvelle invitée, Maura Conway, par téléphone, encore peut-être un mot avec vous, Françoise Coste. Marc Potok est un ancien journaliste et qui est devenu un des experts, disons, les plus reconnus des radicalités, qui est membre du Southern Poverty Law Center, qui est une association américaine reconnue pour ses travaux de surveillance sur l'extrême droite, en tout cas sur la droite radicale, disons-le. Il dit à propos de l'alt-right, je le cite, « L'alt-right, c'est le suprémacisme blanc à l'ère numérique, ce qui est nouveau. Longtemps, l'extrême droite a eu le regard tourné vers les symboles du passé, comme le drapeau confédéré. Là, ils reprennent des symboles de modernité, ceux d'Internet. Selon lui, ce qu'il explique, c'est que l'alt-right, elle s'est modernisée. Pourquoi, finalement? Est-ce que c'est seulement l'Internet qui explique ça ou c'est autre chose? Pourquoi cette modernisation du mouvement, du courant?
Alors,
c'est juste les nouvelles technologies de l'information?
Ce n'est pas que ça. C'est aussi que il a raison de dire que pendant très longtemps, cette droite radicale, un autre de ses éléments constitutifs, c'était le racisme. Puisque je parlais tout à l'heure de la John Birch Society, par exemple, qui était un mouvement qui luttait pour la poursuite de la ségrégation, contre le mouvement des droits civiques. Donc le racisme, la conviction dans la suprématie blanche, ça a toujours existé. Sauf que, en réalité, aujourd'hui, la ségrégation, ça s'est fini en 64 aux États-Unis, donc ça fait 50 ans. Même les plus racistes se rendent compte qu'on ne peut plus, en société, en public, être ouvertement ségrégationniste, prôner ouvertement l'infériorité des Noirs. Donc, il a fallu un peu se mettre à niveau, puisqu'on peut pas. Il a fallu adapter les arguments racistes il y a 50 ans pour apparaître un peu moins raciste. L'idée sous-jacente, c'est la même. Mais l'Internet permet de dire, vous voyez, on n'est pas quand même comme les. On n'est pas le Ku Klux Klan. Voilà, on n'est pas le Ku Klux Klan. Nous, on ne va pas brûler des croix devant les églises noires. Nous, on a des sites internet fun. Donc on peut pas,
On est bien plus fréquentable, évidemment. Justement, vous allez pouvoir l'entendre parce qu'on va entendre justement deux de ces figures qui considèrent qu'elles sont justement plus fréquentables. Alt-right, fachosphère. Quand l'extrême droite s'empare du web, c'est notre sujet ce matin. On est avec Françoise Cosse, qui est historienne spécialiste des États-Unis et de cette droite américaine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On a inventé la tolérance, on a inventé le multiculturalisme, on a inventé le politiquement correct, on a inventé toutes ces bonnes choses qui étaient bonnes en apparence, et ils sont en train de les retourner pour nous les renvoyer au visage. Ça me frustre tellement. Vous êtes en train d'adoucir le récit des Arabes à un tel point que ça frustre des djihadistes. Plein de djihadistes sont là. Pardon ? Je me suis fait suer à faire le Bataclan ? Arrêtez de ne pas accuser les musulmans ! J'ai crié « Allahu Akbar » quand même.
Je trouve ça dingue. Quand tu es allé à Paris, tout le monde voulait exprimer sa solidarité avec les musulmans.
Oh mon Dieu.
Et toutes ces choses, c'est une espèce d'attitude suicidaire, un désir d'aller vers la mort qui, il me semble, est devenu caractéristique des États-Unis. Mais j'espère que nous pourrons l'arrêter. Et ça fait maintenant partie du caractère de ce continent, l'Europe.
Voilà, deux maîtres de la provocation, qui ont pignon sur rue dans ce monde de l'alt-right et des médias alternatifs. Milo Yiannopoulos, qui est chroniqueur chez Breitbart, justement, dont on parlait, venu du monde du jeu vidéo, dont il s'est désigné porte-parole. Il s'est auto-désigné porte-parole. Il est devenu l'une des figures alternatives, prenant des positions antiféministes, voire même carrément racistes, puisqu'il s'était notamment illustré en proférant des insultes racistes à l'égard de l'actrice afro-américaine Leslie Jones, reçue dans le show, je mets des guillemets, hein, de Gavin McInnes, les cofondateurs du site Vice, qu'il a quitté depuis, est un fervent soutien de Donald Trump et travaille beaucoup pour restaurer la fierté d'être blanc. Une rencontre diffusée sur un site internet qui jouit d'un certain succès, The Rebel Media, mais il en existe beaucoup d'autres, justement. On va retrouver Maura Conway. Lors d'un discours en août dernier, Hillary Clinton se lance dans une critique féroce du mouvement alt-right. Elle souligne ses liens avec Donald Trump afin de discréditer le candidat républicain. Et cette mouvance d'extrême droite, qui défend donc le protectionnisme, l'isolationnisme, on le disait, et rejette le multiculturalisme, par le biais d'une nébuleuse de sites internet, ses idées sont diffusées et rencontrent, c'est vrai, un certain succès. Maura Conway, qui est donc professeure à la School of Law and Government de l'Université de Dublin, et qui coordonne ce réseau Voxpol, qui est un projet de l'Union européenne sur l'extrémisme politique en ligne, elle nous explique dans quelle mesure la campagne américaine et les provocations xénophobes et misogynes de Trump ont contribué justement à donner de l'importance à ces sites internet d'extrême droite. Elle est au micro Tiffaine de Rocchini.
It really is a movement that emerged from the internet and
c'est vraiment un mouvement qui a émergé sur Internet et une grande partie de leur influence vient des réseaux sociaux, plateformes et sites Internet. Les membres les plus visibles de ce mouvement alt-right ont généré des soutiens et acquis un statut de célébrité grâce à leur activité en ligne. Par exemple, de nombreux mèmes, très populaires parmi les alt-right, ont été créés à partir du site 4chan. Reddit est aussi une plateforme très utilisée. Ensuite, ces mèmes sont diffusés très largement sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter. Un mème très populaire qui vient de 4chan et que l'on associe désormais au mouvement est le personnage Pépé de Frog, qui a beaucoup attiré l'attention. Un autre exemple, qui vient cette fois du film Matrix et qu'ils ont commencé à utiliser en ligne, c'est cette idée de la pilule bleue et de la pilule rouge. Dans le film, Keanu Reeves doit choisir entre deux pilules, une bleue et une rouge. L'une d'elles lui permet de continuer à vivre dans cette sorte d'état d'illusion, et l'autre le fait accéder à la conscience de la réalité. Un terme qui est souvent employé par les alt-right, c'est celui de cook, une abréviation de l'anglais cuckold, un cocu, un terme un peu désuet que l'on emploie plus très souvent aujourd'hui. Il est souvent utilisé en revanche par le mouvement alt-right pour critiquer les personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Le terme renvoie à la misogynie au cœur du mouvement alt-right. Ils sont très, très critiques vis-à-vis des féministes et même du principe d'égalité homme-femme. Ils critiquent l'idée qu'il y aurait une culture du viol ou que les femmes sont injustement discriminées, par exemple dans le contexte de leur travail ou ailleurs. Ils refusent même de reconnaître le fait que les femmes sont moins payées que les hommes pour un même travail. Ils utilisent donc souvent le terme cooks pour désigner les gens qui soutiennent ces idées, l'égalité homme-femme en général, surtout si ce sont des hommes. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que de nombreux hommes d'aujourd'hui sont dominés par les femmes. Toute cette rhétorique et le terme cooks se sont répandus rapidement et très largement dans les cercles d'extrême droite européens. C'est à la fois une critique et une sorte de nom de code utilisé par tous les gens qui souscrivent aux idées alt-right. Comme je le disais, il y a tout un tas de mèmes qui ont été créés, notamment à partir de 4chan, un site qui est très utilisé par les alt-right. Beaucoup sont ouvertement racistes ou renvoient à l'iconographie nazie, mais pour certains comme les Skittles, les bonbons colorés américains censés représenter les réfugiés, ou Pépé de Frog, il faut connaître ce contexte pour bien les comprendre.
On l'a entendu, Hillary Clinton a dénoncé le racisme du mouvement alt-right lors de son discours à Reno dans le Nevada en août, ce qui a eu comme effet pervers de donner finalement plus de visibilité à ces sites qui sont ouvertement xénophobes et misogynes. Et d'ailleurs, ils se sont eux-mêmes vantés d'avoir été cités par la candidate démocrate, Maura Conway.
Yeah, absolutely. So a lot of prominent people in the alt-right movement were quite pleased.
Oui, absolument. De nombreux membres visibles du mouvement alt-right se sont montrés plutôt contents qu'Hillary Clinton les qualifie de déplorables. En fait, la plupart d'entre eux sont alors apparus dans les médias, surtout les médias de droite, pour dire qu'ils se sentaient confortés par cette déclaration, parce qu'elle signifiait que les libéraux, les gens de gauche et autres, avaient peur d'eux. L'influence qu'ils acquièrent les place dans une position de force, et bien entendu, ils s'en réjouissent. Ils ont commencé à être contactés par de nombreux médias, pas seulement aux États-Unis mais du monde entier, à la suite de la remarque d'Hillary Clinton qui a donné un grand coup de fouet au mouvement. Mais ça, c'est un des aspects. D'un autre côté, concernant sa remarque, les médias ont la responsabilité de couvrir ce qui se passe pendant la campagne. Je ne crois pas qu'ils peuvent se permettre d'ignorer la montée de la droite. Je pense que ce phénomène par lequel des idées, auparavant, et il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, étaient considérées comme extrémistes, sont apparues pour le grand public comme normalisées, si vous voulez. Je pense que c'est une chose à laquelle les médias doivent se confronter.
Selon certains médias américains, Donald Trump aurait l'intention de créer, après l'élection, un empire médiatique d'extrême droite, dont les ramifications s'étendraient jusqu'en Europe. Il s'appuierait ainsi sur le site conservateur Breitbart News, dont le cofondateur et son directeur de campagne, Stephen Bannon. Et il ouvrirait ainsi des bureaux en France, en Belgique et en Allemagne. C'est une information du journaliste du New Yorker, Ryan Litza. Quel est l'objectif, selon vous, Maura Conway?
Yeah, I don't know what their plans are, but I would certainly say that.
Je ne sais pas quels sont leurs projets, mais ce qui est certain, c'est que Breitbart et d'autres services similaires cherchent à s'étendre au-delà des États-Unis. C'est visible avec l'expansion de leur activité en ligne. Il y a ainsi de nombreux forums de discussion ou prétendus sites d'information qui opèrent depuis les États-Unis et qui ont un nombre important de lecteurs ou de viewers en Europe. On voit bien, quand on étudie l'Internet, la façon dont les idées de l'extrême droite américaine sont reprises dans certains cercles européens. Par exemple, on peut suivre les hashtags ou d'autres types d'activités et les voir se déplacer d'une audience généralement américaine ou basée aux États-Unis à un public beaucoup plus large. Par exemple, auprès des anglophones, au-delà des États-Unis et même encore plus largement en Europe, chez ceux qui ne parlent pas anglais. Par exemple, on voit des gens utiliser ces hashtags en français sur Twitter. On peut penser au hashtag « génocide blanc » qui est très répandu sur Twitter dans les réseaux d'extrême droite et également très visible en Europe aujourd'hui.
Ce qu'il faut souligner, je pense, c'est la haine qu'éprouvent les sympathisants des mouvements alt-right pour les médias conservateurs traditionnels, qu'ils assimilent à l'establishment, à l'ordre établi. Comment comprendre cette fracture qui a entraîné justement l'émergence de ces médias alternatifs ou prétendus tels sur le web ?
A lot of people in the alt-right, but in the extreme right more generally in the United States are.
De nombreuses personnes parmi les alt-right ou l'extrême droite en général se montrent très critiques vis-à-vis de l'establishment, de ce qu'ils décrivent comme l'élite. Et cela inclut non seulement les libéraux ou l'establishment de gauche, associés au Parti démocrate, mais aussi plus largement le Parti républicain et les médias conservateurs traditionnels liés au Parti républicain. Et enfin, l'ensemble des médias dominants, des médias de l'élite. Et donc, ils rangent Fox et tous les médias dominants dans cette catégorie. Ils cherchent à développer leur propre organe de presse, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. On observe aussi qu'ils rencontrent de plus en plus de succès, qu'ils génèrent de plus en plus de trafic sur leur site depuis le début de la campagne de Trump. Donc il est évident que la campagne de Trump leur a bénéficié. En fait, les médias libéraux dont ils sont les critiques leur ont donné une voix. Si vous voulez, leur extrémisme a été un tel sujet d'attention pour les médias, entre guillemets traditionnels, que du coup, beaucoup de gens ont découvert ces nouveaux organes de presse par le biais des médias libéraux traditionnels qui critiquaient par ailleurs. Ils vont vraiment tirer profit de cette couverture médiatique. Et même si Donald Trump et un grand nombre de personnes autour de lui critiquent constamment les médias et ce qu'ils considèrent comme les médias libéraux, les médias de l'élite, en fait, la couverture qu'ils ont reçue leur a été incommensurablement profitable.
Voilà, Maura Conway, donc au micro Tiffaine de Rocchini. Maura Conway qui est professeure à l'université de Dublin et qui coordonne ce projet, ce réseau Voxpol, qui est un projet de l'Union européenne sur l'extrémisme politique en ligne. On voyait très bien, Françoise Coste, dans cette interview, la puissance finalement de ces médias alternatifs sur Internet. Mais je voudrais peut-être aller peut-être plus dans le fond des choses encore et poursuivre. Je parlais tout à l'heure dans mon introduction de la question de la post-vérité. On se souvient en 2004, l'historien américain Ralph Keyes qui avait écrit ce livre sur l'ère post-vérité. Il y décrivait cette tendance assez dangereuse de nos démocraties qui croit de moins en moins aux faits dans le débat politique, mais qui se laisse convaincre finalement par des mensonges tant qu'ils sont assénés avec, disons, suffisamment d'assurance et de conviction. Et en la matière, Trump est un spécialiste du genre. D'ailleurs, l'été dernier, le site de vérification PliFact avait analysé 158 de ses affirmations, montrant que 80% d'entre elles rentraient dans la catégorie fausse, voire complètement délirant. Donc Trump, il incarne bien cette dérive assez inquiétante qui permet à des politiques finalement de convaincre des concitoyens avec des mensonges. Comment le comprendre alors même que les Américains sont si réfractaires aux mensonges? On se souvient bien sûr ce qui avait choqué les Américains sur l'affaire de Bill Clinton. C'était moins ses affaires, ses écarts, disons, sexuels que le fait précisément qu'il ait menti. Alors quoi, la vérité n'a plus d'importance aux États-Unis? La vérité, c'est devenu une opinion parmi d'autres?
Oui, c'est exactement ça. La vérité est une opinion. Mais là, je dois dire, c'est pas la faute de Trump. Trump, c'est le sommet de l'iceberg. Et là, je vais éditorialiser. Mais je vois, là, c'est la responsabilité du Parti républicain. Le Parti républicain, qui depuis 40-50 ans et devient de plus en plus conservateur. Bon, pas assez conservateur, je l'ai dit pour certains, mais il est de plus en plus conservateur. Et ce déplacement vers la droite, c'est accompagné d'une remise en cause de plus en plus fréquente des faits. Et on peut par exemple regarder, depuis 15 ans, 20 ans, le Parti républicain nie, par exemple, le réchauffement climatique. Donc ça, c'est pas la faute de Trump. Depuis 20 ans, pendant toutes les campagnes électorales, on dit au président républicain, il y a un consensus international scientifique sur le fait que la planète se réchauffe, et Bush va dire non, c'est pas vrai, McCain va dire en 2008 non, c'est pas vrai, Romney en 2012 va dire non, c'est pas vrai. Idem depuis en fait les années Reagan sur par exemple la question du darwinisme et du créationnisme, où on demande à Reagan est-ce que Darwin a raison ou est-ce que la Genèse a raison, Reagan va dire non, c'est la Genèse. On demande à Bush est-ce que vous pensez que la Terre a 4 milliards d'années, il dit non, elle a 6 000 ans comme le dit la Bible. Donc ça, c'est pas nouveau. Encore une fois, c'est exacerbé par Trump, mais là je veux dire le Parti républicain a creusé sa propre tombe.
C'est un vrai défi, évidemment, pour les médias, disons, traditionnels. Comment répondre à ce nouveau contexte? On voit, finalement, les sites de fact-checking ne peuvent rien dans cet environnement où la vérité, finalement, n'a plus de valeur. Donc, c'est très compliqué. On va peut-être quitter les États-Unis et prendre la direction de la France.
Cette campagne qui se profile et dont j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai confié la direction à quelqu'un de talentueux, à un homme qui symbolise la jeunesse, le travail, le mérite, la fidélité, le succès, David Rachline, sénateur-maire de Fréjus.
Voilà, donc Marine Le Pen qui annonce la nomination de David Rachline comme directeur de campagne. Rachline, donc sénateur-maire de Fréjus, militant frontiste de longue date, un homme qui symbolise la jeunesse, le travail, le mérite, la fidélité et il faut bien le dire, le succès, avait dit Marine Le Pen lors de sa nomination. Mais ce qu'elle n'avait pas précisé, c'est qu'il est également l'ancien responsable des services numériques et que donc, par conséquent, c'est un parfait connaisseur du combat politique qui joue en grande partie sur Internet et notamment dans ces fameux médias alternatifs. Donc c'est un choix qui illustre très bien l'importance du numérique dans la bataille menée par le Front National. Bonjour David Doucet.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef aux Inrecuptibles et vous signez avec Dominique Albertini La Fachosphère qui est parue chez Flammarion il y a quelques mois maintenant. Alors La Fachosphère, alors vous dites qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça, de nombreux groupes, différentes familles, les islamophobes, les partisans de la thèse d'un choc de civilisation, les identitaires qui défendent cette vision racialiste de la France, les catholiques intégristes, les nationalistes révolutionnaires, etc. etc. Mais vous dites qu'ils partagent tous finalement un objectif commun. C'est celui de propager l'analyse et les mots d'ordre de l'extrême droite. Internet, dites-vous, permettant de contourner le filtre des médias traditionnels et de toucher directement l'audience. Il s'agit de réinformer les gens.
Oui, ils estiment en fait que leur message n'était pas véhiculé par la presse ou la télévision et durant très longtemps, les thèmes identitaires auraient été passés sous silence. Donc, ils ont créé leur propre média et avec une certaine motivation et ils ont réussi aujourd'hui à créer des sites qui ont des audiences comparables à celui d'un site comme celui des Inroc ou de Rue 89. Et avec très peu de moyens, on voit bien qu'ils arrivent à avoir une visibilité en ligne assez importante et ils arrivent aussi à avoir un vrai levier de mobilisation pour des actions dans la vie réelle. On l'a vu lors de la Manif pour tous ou dans d'autres événements de ce type.
Parmi ces sites, F de Souche, peut-être l'un des plus importants sites de réinformation. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, souvenez-vous, en 2012, prenait la défense de F de Souche, justement.
Là, pour lancer un signal amical à un site internet qui n'est pas du Front National, mais dont les administrateurs aujourd'hui sont victimes d'une véritable persécution judiciaire, à savoir nos amis de F de Souche.
Alors, vous avez rencontré justement David Doucet, son fondateur, c'est Pierre Sautarel, même si le site appartient officiellement à un Indien, vous expliquez ça, dont il est aussi difficile de comprendre les motivations que de retrouver sa trace. En réalité, clairement, ce site, il est géré par ce fameux Pierre Sautarel. Vous le rencontrez et il vous explique la chose suivante. La devise de F de Souche, vous dit-il, c'est de faire le moins d'analyse possible. Il s'agit de faire passer une idée politique par la concentration et le choix d'articles trouvés ailleurs. On fonctionne sur le principe d'une revue de presse à base de copier-coller. Ensuite, ce sont nos lecteurs qui font l'analyse, à eux d'analyser, de disserter et de montrer où est la manipulation, s'il y en a une. C'est assez étonnant de se dire que ce site, il se présente comme un site alternatif, très critique à l'égard évidemment des grands médias traditionnels, alors même qu'en réalité, il fournit son contenu à partir de médias traditionnels.
Oui, c'est très étonnant. C'est vrai qu'il y a finalement assez peu de production éditoriale ou de contenu idéologisé sur ce site. Mais en fait, il martèle un message, il monte en épingle des faits divers, des micro-événements. Et par la concentration, par l'effet de saturation, il essaye de montrer que voilà, il y aurait un cauchemar identitaire et que la France serait en voie de subversion par l'immigration ou par l'islam. Et en fait, ce qui nous a confié, c'est qu'il dit voilà, quand vous allez 2-3 mois sur F de Souche, il n'y a pas trop d'intérêt d'y rester un quatrième mois. Pourquoi ? Une fois que vous avez compris le message qu'on essaie de vous faire passer, c'est-à-dire qu'il y a un vrai péril migratoire en France, selon lui bien sûr, à partir de ce moment-là, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc l'objectif, c'est de faire passer, de transformer en fait cette lecture virtuelle en vocation ensuite militante. Et une fois que le message est passé, il n'y a pas trop d'intérêt à aller sur F de Souche. C'est une sorte de chambre d'écho de tous les cauchemars identitaires que peuvent ressentir une partie de la population française.
Mais est-ce que cette vocation militante, justement, elle peut être suscitée par la consultation de tels sites ?
Oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, 80 à 90% des militants qui adhèrent au Front National, ils le font par Internet. Et on voit bien que certaines émissions de Marine Le Pen déclenchent à chaque fois un grand nombre d'adhésions. Lors de sa campagne interne contre Bruno Gollnisch, elle a fait la différence, notamment grâce à un grand nombre d'adhésions en ligne après une grande émission de débat télévisée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, Internet permet de libérer la parole. Avant, on avait du mal, lorsqu'on était militant frontiste, à assumer ses idées dans son milieu social, dans son milieu professionnel. Et Internet a permis justement une libération, une déculpabilisation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne plus être seuls à penser cet thème identitaire, et du coup, ils en viennent plus naturellement à militer et à assumer leur position. Et le fondateur de F de Souche, Pierre Sautarel, me disait, moi, à mon époque, dans les années 90, on n'osait pas assumer qu'on était militant frontiste, qu'on tractait, donc on le cachait. Et il me disait, moi, je suis surpris de voir sur nos pages Facebook des gens assumer des propos très radicaux sur l'islam, sur l'immigration, et à visage découvert.
Pour qui roule Sautarel ? C'est un soutien de Marine Le Pen ?
Il roule pour lui-même et pour sa propre boutique, entre guillemets. Il essaye de faire. Il agit un peu comme un lobby identitaire. Donc, il va des fois défendre le Front National lorsqu'il estime que le FN est sur sa ligne. Et lorsque le FN refuse, par exemple, d'arrêter la construction d'une mosquée comme à Fréjus, avec notamment le maire David Rachlin, dont on a parlé, eh ben, il va appeler ses lecteurs, ses internautes, à protester, à faire une sorte de lobbying aussi sur la toile avec des messages sur Twitter pour empêcher la construction d'une mosquée. Donc son objectif, c'est que le FN se déporte un peu plus à droite sur des thèmes identitaires et un peu moins sur une ligne nationale républicaine.
Donc c'est des objectifs politiques. C'est des objectifs politiques avant d'être des objectifs économiques, par exemple. Ça pourrait être aussi ça, la motivation.
C'est plus des objectifs politiques, sociétaux. Il veut que en fait, il y a deux branches au FN. Il y a une branche plus nationale républicaine et il y a une branche plus identitaire comme celle défendue par Marion Maréchal Le Pen. Et lui, il penche plus dans la deuxième courant du Front National.
Comment ces médias sont financés?
Ils sont financés par des appels aux dons. Et on voit bien que les ennuis judiciaires qu'ils peuvent avoir servent de victimisation et leur permet aussi d'avoir plus de subsides. Ils essayent, voilà, à chaque fois qu'ils ont un ennui judiciaire, de le montrer pour dire à leurs lecteurs, l'establishment ne veut pas que vous visitiez nos sites, nous avons besoin de votre aide et sans vous, on n'est plus rien. Donc il y a une stratégie de victimisation, mais il y a aussi des lecteurs qui ont l'impression, en donnant, de participer à un combat virtuel. Donc le don est plus facilement est plus libre et fonctionne beaucoup mieux que dans d'autres leviers sur Internet pour d'autres projets plus mainstream.
Il y a les dons, David Doucet, mais visiblement il n'y a pas que ça. Vous parlez par exemple de Télé Liberté, qui est une web télé qui émet depuis 2014 maintenant sur le site. Je suis allé voir. On lit la chose suivante: Télé Liberté se distingue de la concurrence en étant ouvertement pour la défense et la promotion de la culture et de l'esprit français au cœur des nations européennes. Et vous dites à propos de cette web télé qu'il y a une forte présomption d'un financement russe.
Oui, tout à fait. Bah, on a essayé de montrer qu'effectivement, il y a des liens très forts avec la Russie. Bon, déjà l'extrême droite française idéologiquement s'en sent plus proche, et la Russie, le Kremlin cherche aujourd'hui des appuis pour diffuser sa parole, pour aussi chercher des soutiens à Vladimir Poutine. Donc, ils ont lancé Russia Today, Sputnik, mais ils cherchent aussi des médias plus proches idéologiquement. Et donc c'est le cas de cette web TV qui s'appelle Télé Liberté, où très clairement l'atmosphère est pro-russe, on n'a pas le droit de critiquer Vladimir Poutine, et il y a des reportages qui sont organisés conjointement avec l'appui tacite et logistique du Kremlin, et on voit bien qu'il y a dans les invités, dans le choix des thèmes, une défense acharnée de la Russie. Mmh. Alors on n'a pas pu démontrer qu'il y avait un financement russe, mais de nombreux acteurs de cette web TV nous ont dit que, de toute évidence, ils ne pourraient pas fonctionner seulement avec des appels aux dons traditionnels, et que l'argent qu'ils ont mis, parce qu'ils ont quand même un studio de télévision, une dizaine de salariés, effectivement, il y a une forte présomption que la Russie ait pu aider à un moment ou à un autre cette web TV.
Françoise Coste, vraiment en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais vous reconnaissez dans le fonctionnement de cette fachosphère et de ces acteurs du web des choses qui se passent du côté des États-Unis, Françoise Coste?
Oui, sauf pour un élément, quand je parlais tout à l'heure du genre de Trump qui veut lancer sa propre web TV, par exemple. Là, pour le coup, je pense que c'est complètement cynique et pragmatique et que le but, c'est plutôt de faire de l'argent que de lancer une révolution idéologique. Donc, c'est beaucoup plus américain dans ce sens-là.
Merci beaucoup à vous, à David Doucet qui était avec nous par téléphone. La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net, c'est paru chez Flammarion. Et un grand merci à vous, Françoise Coste, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappellerai Reagan, qui est votre livre, qui a été récompensé par le Grand Prix de la biographie politique et qui est paru l'année dernière chez Perrin. On mettra évidemment toutes les références de ces ouvrages sur le site internet de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à vous, Françoise Coste, et également au technicien qui a permis de faire le duplex jusqu'à nous. Et on va poursuivre avec notre ami Bruce Couturier et le tour du monde des idées. Et on va pas être très très loin des thèmes qu'on abordait.
Le tour du monde des idées, Bruce Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Ah oui, puisque depuis toute cette semaine, vous nous parlez de Donald Trump. Que nous révèle la désignation de Donald Trump comme candidat du Parti républicain quant au climat politique général qui règne aux États-Unis?
De ce climat, Florian, on peut constater qu'il a changé d'une manière déroutante en 8 ans. Obama pouvait faire rêver l'Amérique en 2008 avec son « Yes, we can ». Son idéal d'une Amérique post-raciale a échoué, comme le démontre le mouvement Black Lives Matter. Et s'il peut se vanter d'avoir fait reculer très fortement le chômage, c'est au prix d'une dégradation de la qualité des emplois, d'une stagnation des revenus salariaux, d'une explosion des inégalités. Aujourd'hui, les États-Unis ne rêvent plus. Pour les non-qualifiés, le rêve américain a même franchement tourné au cauchemar. Trump est le candidat du ras-le-bol, écrit David Bronwich dans le New York Review of Books. The to hell with it candidate. Si vous détestez les politiques en général, que vous ne les comprenez pas, écrit ce fameux critique littéraire, mais que vous êtes certain que votre pays a décliné et que l'avenir vous paraît pire que le présent, alors Trump est votre homme. Il ne s'y connaît pas davantage que vous, mais il dit que c'est un piège à con, un mug's game. Sur le plan international, Obama a géré avec prudence l'affaiblissement de la puissance américaine, son désinvestissement de la scène moyenne orientale et son pivot vers le Pacifique. Mais comme le souligne le commentateur Farid Zakaria dans l'article de Foreign Affairs que j'évoquais hier, les Américains butent sur les mêmes problèmes que l'ensemble du monde occidental. La mondialisation est accusée de provoquer des délocalisations, la révolution numérique et la robotisation de détruire les emplois manufacturiers qui étaient correctement rémunérés et l'immigration, de saper l'unité nationale et de menacer les modes de vie traditionnels. Il écrit « Le génie politique de Trump a été de réaliser que beaucoup d'électeurs républicains n'accrochaient plus au credo du parti sur le libre-échange, les baisses d'impôts, la dérégulation, les droits acquis, mais qu'ils répondraient favorablement à une offre différente, basée sur les peurs culturelles et le sentiment nationaliste. » Et Farid Zakaria d'ajouter « Et il y a une réalité derrière cette rhétorique, parce que nous vivons effectivement une époque de migration de masse. En 2015, dit-il, le nombre de migrants dans le monde était de 250 millions. L'Europe, souligne-t-il, est le continent le plus ouvert et en aurait accueilli 76 millions. Voilà qui contredit le mythe de l'Europe forteresse, soit dit en passant. Mais souligne Farid Zakaria, c'est aussi le continent qui connaît la plus forte anxiété et celle-ci se traduit par une poussée de fièvre populiste qui n'y épargne pratiquement plus aucun pays. Aux États-Unis, où vivent aujourd'hui 11 millions d'illégaux, en provenance pour l'essentiel d'Amérique centrale, 14% des habitants sont nés à l'étranger, alors qu'ils étaient moins de 5% en 1970. Conclusion de l'article, je cite, « L'immigration est la dernière frontière de la mondialisation. C'est la plus gênante et la plus perturbatrice. Il faut admettre que le rythme du changement peut devenir trop rapide pour que la société le digère. Les sociétés occidentales doivent se concentrer sur les risques liés au changement culturel trop rapide. Cela implique de mettre quelques limites au rythme de l'immigration et de veiller au genre d'immigrés que l'on souhaite faire entrer. Et cela devrait impliquer de consacrer davantage de ressources à l'intégration et à l'assimilation. » Fin de citation. Vous voyez qu'un politologue unanimement respecté aux États-Unis et lui-même immigré, Farid Zakaria, tienne ce genre de discours, montre combien les opinions ont changé outre-Atlantique en l'espace de 8 ans.
Et le discours que tient Donald Trump à ses supporters, est-ce qu'il peut être qualifié de raciste, Brice ?
Eh bien, Laure Vandeville, dans le livre dont je parlais hier, « Qui est vraiment Donald Trump ?», pose franchement cette question et elle y répond par la négative. Mais elle met en avant, parmi les causes du succès de Trump, une spirale inégalitaire dérivant, je cite, « de l'effondrement du niveau de vie et des repères culturels des classes populaires ». L'électorat de Trump, c'est clair, est fortement hostile à l'immigration illégale, mais comme l'a dit Marco Rubio, fils d'immigrés cubains et candidat malheureux aux primaires républicaines, je cite, « les gens en ont assez d'être traités de racistes parce qu'ils disent qu'il faut arrêter l'immigration illégale ». Et un petit entrepreneur de Virginie du Nord explique ainsi son choix de Trump, « je ne suis pas contre l'immigration ». Mes parents venaient du Chili. Je suis arrivé ici à l'âge de 2 mois. Mais l'Amérique doit pouvoir choisir qui elle laisse entrer. Et c'est également dans le livre de Laure Mandeville que l'on trouve cette analyse d'une ancienne conseillère de John McCain, Dana White. D'après elle, je cite encore, « Donald Trump a remporté la mise au parti républicain parce qu'il redonne son sens au mot de limite. Les gens ont besoin de limites, de lois. C'est particulièrement vrai dans ce pays qui a été construit sur le respect des lois. Ce que les gens veulent dire intuitivement quand ils votent pour Trump, c'est que les États ont besoin de frontières de la même manière que les individus ont besoin de limites. Fin de citation. Paradoxalement, selon l'envoyé spécial du Figaro aux États-Unis, Trump incarnerait à son étrange manière et comme Obama lui-même, l'expiration d'une hubris américaine, cette ivresse de la puissance qui poussait le pays à se prendre pour le shérif de la planète et a inspiré tant qui a inspiré tant Bill Clinton que George Bush, la politique étrangère prônée par Trump tourne le dos à l'interventionnisme des néocons et prétend se focaliser de manière réaliste sur les intérêts américains. Au détriment des alliés, ça on en parlera demain.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donald Trump, qui est vraiment Donald Trump, Laure Mandeville, c'est aux éditions des Équateurs, j'avais oublié hier, voilà. C'est fait pour les auditeurs qui voudraient se pencher sur ce très bon livre, c'est vrai. Merci beaucoup Brice, on se retrouve demain.
À demain.